je vous présente l'émission Les Grands s'amusent. Les Grands s'amusent, c'est la transmission de nos aînés, nos mémoires vives, c'est la continuité du monde et de nos valeurs. C'est surtout du partage entre générations et une manière de se rapprocher les uns des autres. Aujourd'hui, je reçois René Metz. Bonjour René.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Ouais. Alors René, vous êtes un ancien athlète sprinteur et aujourd'hui vous êtes un golfeur assidu. Vous êtes né à Paris, vous êtes repéré à l'âge de 10 ans pour vos qualités en athlétisme. Cela vous a amené à voyager pour participer à différentes compétitions à travers le monde. Vous rapportez plusieurs médailles. Vous allez nous raconter aujourd'hui votre destin et votre vision de ce monde du sport de haut niveau. Vous êtes une personne structurée, empathique et qui avance très très vite. Et oui, vous avez une sacrée expérience en matière de vitesse. Nous allons faire le plein d'énergie avec vous pendant une heure. C'est parti ?
C'est parti.
Allez, on y va. Alors, j'ai une première question pour vous, René Metz. Qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel ? En gros, que vous ont transmis vos parents ?
Alors, je crois que le capital culturel se construit de multiples façons, plus ou moins formelles. C'est la somme d'un parcours de vie. Alors, il y a l'école, les études, la famille, les amis, les rencontres. Parcours professionnel aussi, et dans mon cas, il y a le sport qui occupe une place privilégiée. Alors, avec le recul, je dirais qu'il n'y a pas de... J'ai une certitude, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. C'est des influences et des empreintes plus ou moins fortes.
Donc, ce n'est pas forcément les valeurs familiales qui vous ont donné ce goût.
C'est l'une des empreintes,
ouais,
mais ce n'est pas la seule.
C'est pas que ça.
Je ne fais pas référence non plus au milieu social, donc qui agit aussi, mais ce n'est pas déterminant, loin de là.
D'accord, ok. Alors, comment ça a commencé justement le monde du sport pour vous ?
C'est pour tout dire, étant jeune, c'était mal parti pour le sport. Donc, j'ai eu la poliomyélite à 7 ans. Alors, c'est un virus qui envahit le système nerveux et on peut entraîner une paralysie irréversible. Alors, la seule arme efficace à l'époque, ça va rappeler quelque chose que l'on vit actuellement, c'était la vaccination.
Ouais.
Il fallait 2 doses. Heureusement, j'avais reçu un premier vaccin et les séquelles ont été moins graves. Donc, j'ai une légère paralysie de ma jambe droite et puis une scoliose. Mais ça a été aussi à l'origine de blessures musculaires lors de ma carrière sportive. Alors, j'ai eu le sentiment d'avoir échappé à un drame qui aurait complètement bouleversé ma vie. Je me souviens encore, j'allais à Garches pour la rééducation et je voyais des enfants de mon âge qui étaient paralysés des membres inférieurs. Donc, c'était d'une grande tristesse.
Qui avait la même maladie que la vôtre.
Oui, c'était le début. C'était encore pas très, très connu. Et bon, il y avait beaucoup de cas et c'était vraiment très bien. Donc, pour moi, c'était beaucoup d'efforts, rééducation intensive pour trouver mes moyens physiques. Ça a forgé ma volonté de m'en sortir. Et puis, ça a été pour moi le début d'une philosophie de vie, c'est-à-dire de relativiser donc tous les problèmes, les tracas du quotidien.
Ouais.
Ensuite, mon père m'a poussé à faire du sport. Donc, c'était à 10 ans. Et finalement, c'était le football. Alors, j'ai joué dans un club, l'UACS, qui était à la porte de Saint-Cloud, qui était tout près du Parc des Princes. Alors, ce sport m'a permis de révéler mes qualités physiques naturelles et c'était la vitesse.
Donc là, vous aviez repris possession de votre physique, de votre musculation, de
mais
tout.
Absolument, mais ça a été 3 ans d'efforts et de rééducation, un peu de retard scolaire. Enfin bon, c'est une période pas très très drôle.
Donc, il fallait une sacrée volonté pour avancer. Ouais.
Voilà. Alors, j'ai marqué beaucoup de buts avec l'aide de mes coéquipiers. Il y avait Georges Raffaillac, qui à l'époque était capitaine, Jean Le Huillier, qui me dressait toujours des balles à la limite du hors-jeu. Donc, ça a été une époque très, très intéressante. Et à l'âge de 16 ans, j'ai été qualifié dans l'équipe de Paris comme avant-centre. Alors, c'est une période qui m'a apporté déjà l'esprit d'équipe, la confiance en soi, et puis de très bons copains que j'ai encore.
Ouais. Et là, vous avez un souvenir de votre premier entraîneur ou des entraîneurs que vous avez eu assez tôt,
Alors
justement?
là, c'est en athlétisme, c'est Daniel Laurent. Alors, il était professeur d'éducation physique au lycée Michelet, où je faisais mes études secondaires. Puis, il était par ailleurs entraîneur au Paris Université Club. Alors, c'est lui qui m'a incité à quitter le football pour l'athlétisme. Alors, je garde de lui le souvenir d'un homme avec de grandes qualités humaines, fin psychologue. Et très respecté pour ses compétences, et il a été vraiment déterminant dans ma vie.
Oui, parce qu'en fait, c'est lui qui vous a repéré, c'est ça qui vous a repéré.
Oui, absolument. Alors que je faisais un peu de tous les sports, donc au lycée, bon, il a vu que j'allais un peu plus vite que les autres, et à partir de là, il m'a vivement incité à faire de l'athlétisme, déjà avec l'équipe dans laquelle du lycée. Alors, au lycée, il y avait deux sports privilégiés. C'était l'athlétisme et puis le rugby. Donc, à partir de là, donc évidemment, les entraîneurs de rugby m'incitaient à venir dans l'équipe. Mais en fait, j'ai choisi l'athlétisme.
D'accord. Et donc là, parallèlement à ça, vous faisiez des études de droit, je crois.
Alors, il y a déjà la phase du lycée. Donc, j'ai fait mes études secondaires au lycée Michelet, qui est à Vanves, à côté de Paris. Alors, j'en garde un très bon souvenir, parce que il y a déjà un niveau d'enseignement qui était très bon. Et puis, le sport était valorisé. Alors, c'était un peu comme dans les pays anglo-saxons. Alors, je me souviens qu'il y avait un proviseur qui chaque année organisait un buffet avec les lycéens qui s'étaient distingués en sport au cours de l'année. Alors c'était intéressant, là il y avait une véritable reconnaissance du sport qui était considérée à l'égal des autres disciplines, quoi.
Ah oui, ce qui était
Voilà.
rare, ce
Oui,
qui était
ce qui
rare
était
finalement,
assez rare.
et
Alors,
ce
il y
qu'il est
avait des
toujours.
installations sportives magnifiques avec un grand parc, et donc on a bien profité. Après, ben, il y a eu les études supérieures. Donc là, j'ai passé un diplôme d'études supérieures en droit et gestion. C'était l'université de Paris 1. C'était Assas, Panthéon-Sorbonne. Ah, c'est une époque très stimulant intellectuellement. Hein. Les profs étaient excellents. Alors, j'ai toujours le souvenir de Jean-Denis Brodin, qui était un avocat brillant. Et puis, en droit pénal, j'avais Robert Badinter, alors qui était
Qu'on ne présente plus.
dans l'âge rayonnant avec un physique de jeune premier. Alors, je me souviens qu'il y avait toutes les étudiantes qui étaient au premier rang dans les amphis pour l'écouter raconter au début de ses cours ses anecdotes et ses voyages et ses rencontres. Enfin, c'était.
Donc Robert Badinter,
Voilà.
l'avocat
Grand
célèbre.
avocat, ministre de la
Voilà.
Justice,
Voilà.
etc. Bien connu, absolument.
Donc là, vous avez eu une ouverture intellectuelle en parallèle avec le sport. Il y avait ces deux combinés. Voilà. Donc c'était des choses assez exigeantes. Vous étiez dans deux mondes assez brillants, en fait, assez exigeants déjà.
Oui, alors on sait que le sport de haut niveau est exigeant et demande des sacrifices. Alors je crois qu'il faut être très organisé, très motivé aussi et bien entouré. Alors, en fait aussi, il faut faire des choix. Alors, c'est vrai que j'ai dû renoncer à une partie des plaisirs de la vie
Et
estudiantine.
oui, c'est ça, parce que en plus vous aviez 18 ans en mai 68, donc c'était une période d'effervescence sur le plan
Absolument.
social, donc ça devait pas être facile de
Tout à fait. Alors bon, moi j'ai sacrifié les sorties en boîte avec mes amis pucistes. Alors c'est pour cela d'ailleurs que j'ai toujours été un danseur de rock assez moyen.
C'est pas
Enfin bon, faut faire avec.
le temps. On peut pas tout faire, mais c'est vrai qu'il faut du coup il faut de la volonté, il faut être déterminé pour
Ouais.
vous saviez vraiment ce que vous vouliez faire, vous aviez une idée précise
Oui,
de
après,
compétition.
dès l'instant où on commence, et très vite, donc j'ai intégré l'équipe de France, donc à partir de là, il faut une discipline, bon, enfin, oui, avoir des qualités, c'est bien. bien, mais ça suffit pas.
Ouais,
Donc là, il faut travailler et puis essayer de concilier sport et études, hein, ce qui est assez important, quoi.
Ouais. Alors, est-ce qu'il faut être grand, svelte, beau, comme Usain Bolt, comme vous, pour réussir, pour être un athlète en sprint et rapporter des médailles?
Alors là, vous citez Usain Bolt, là, c'est le prototype du sportif qui a toutes les qualités.
D'accord,
Donc, il est bon, il est jamaïcain et on sait que là-bas en Jamaïque, il y a une école de sport et surtout en sprint où il y a les meilleurs. Et puis, eh ben, on a vu qu'il avait la taille, il avait l'amplitude et que finalement, que ce soit en biomécanique ou autre, donc il a le physique parfait pour accomplir les exploits qu'il a pu accomplir et que l'on connaît. Alors après, pour le dépasser, ça sera un peu
Ça va
difficile.
être difficile, oui.
Mais l'expérience prouve, et donc je l'ai vécu, c'est que vous pouvez être petit, très véloce, et puis avoir un niveau de performance très très élevé. Donc il n'y a pas besoin d'être très grand, ça peut aider. Mais à la limite, quand vous êtes plus grand, c'est plutôt sur d'autres disciplines, le 200 mètres, le 400 mètres, où vous pouvez valoriser au mieux vos qualités
Ah, parce que
physiques. Hein,
vous
voilà.
pouvez faire des grandes
Et
foulées.
voilà, exactement. Alors qu'en sprint, il faut être réactif, il faut être véloce, c'est la vitesse pure qui l'emporte et vous pouvez très bien sur
Ah oui,
100 mètres
d'accord.
avoir les meilleurs.
Et justement, il y a des personnes qui vous ont inspiré, des sportifs ou autres, pour aller
Alors, quand
plus
je faisais
loin?
du football, c'était la grande époque de l'équipe de foot brésilienne. Alors, je connaissais les noms par cœur à l'époque. Alors, c'était évidemment Pelé. Alors, il y avait Didi, Vava, Pepe, Garrincha. Il y avait Gilmar. Il y avait Jairzinho. Voilà. Donc, ça, c'était la grande époque. Et bien évidemment, ça m'a inspiré. Ensuite, quand j'ai fait de l'athlétisme, donc là, c'était surtout les sprinteurs, donc les grands noms de l'époque. Il y avait Bob Rice, qui était donc champion olympique sur 100 mètres. Après, il y a eu John Carlos, Tommy Smith, qui ont été médaillés donc à Munich. Et puis ensuite, après, évidemment, mais là, j'étais déjà passé dans la vie professionnelle. Après, c'était les grands noms que l'on vient de citer, avec notamment Usain Bolt, quoi.
Et puis ce sont des gens qui étaient comme qui avaient donc brillant sur le plan sportif, mais brillant aussi sur le plan intellectuel, parce que Pelé, par exemple, il est devenu ambassadeur pour l'ONU, il a été ministre, je crois, de l'éducation, de l'écologie. Donc c'est des gens qui voilà
Ah ben,
qui
c'est des gens qui sont exemplaires, charismatiques. À partir de là, il faut les utiliser comme tels pour effectivement les mettre en avant. Et puis vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis du pays, il faut absolument qu'ils aient un rôle à jouer. C'est déterminant. Hein.
C'est ça. On va mettre une première petite musique que vous avez choisie. Donc, c'est les Beach Boys, Surfing USA. Vous nous racontez, on la passe et puis vous nous racontez après pourquoi vous avez fait ce choix. À tout de suite. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Ventura USA. County. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. That anchor keeps us warm.
Side outside USA.
Pacific Palisades.
Inside outside USA.
Sailing over Yancey.
Inside outside.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Les Grands s'amusent avec mon invité René Metz, qui est un ancien athlète sprinter. Alors, on parle des jeux. Je vais rappeler quand même la valeur des jeux au départ, dans l'Antiquité. C'était l'universalisme, la fraternité entre les peuples. Et puis ensuite, le Français Pierre de Coubertin s'est inspiré de ces jeux antiques et décide d'organiser les premiers jeux olympiques modernes à Athènes. Et leur objectif était d'éduquer la jeunesse à la pratique du sport et de favoriser la paix dans le monde. Voilà, donc ce sont quand même des belles valeurs, ce sport. Et puis on sent que vous, René, vous êtes aussi complètement dans ces valeurs d'humanisme, Non ?
Écoutez, oui. Alors, si on veut rappeler les valeurs de l'olympisme, il y a en gros trois valeurs fondamentales. Il y a l'amitié,
ouais.
Le respect, l'excellence. Alors, bon, il y a beaucoup d'évolutions et qui sont à prévoir. Et je crois que très rapidement, on va pouvoir intégrer d'autres valeurs. Donc, il y a l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination qui sont des valeurs très, très importantes. Alors, les valeurs de l'Olympie sont véhiculées par des symboles. Mm-hmm. Il y a déjà les anneaux,
oui.
Hein, qui représentent l'union des cinq continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques. Puis vous avez également la fameuse devise, hein, donc « Situs, Altus, Fortus », qui signifie « plus vite, plus haut, plus fort ». Et puis vous avez également la flamme, qui est aujourd'hui symbole de paix et d'amitié entre les peuples. Voilà. Alors, quand on parle des Jeux Olympiques, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les Jeux Paralympiques,
oui.
Hein, c'est ça, qui réunissent des athlètes handicapés de tout pays pour des épreuves parasportives.
Et je crois important. Que d'ailleurs, pour les Jeux de Tokyo, c'est une équipe qui sera globale,
effectivement, bien marquer l'union de ces deux pratiques.
Donc c'est vrai que le sport, ce sont quand même des belles valeurs, hein.
Ça fédère beaucoup les gens. C'est des valeurs essentielles.
C'est le
moment unique dans le monde où on arrive effectivement
à rassembler
les peuples et tous les sportifs du monde.
Ouais. Et puis effectivement, toutes les couleurs, toutes les religions, tout. Voilà.
Exactement.
Donc on va passer une petite ambiance de stade. Voilà. Et on parle juste après des stades.
Cette fois, la classe encore une fois a parlé. Usain Bolt sous les 9,60.
Bon, Usain Bolt, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui a été très décontracté et qui a su s'attirer la sympathie de ses supporters. Vous, c'était quoi justement quand vous arriviez sur une compétition, cette ambiance de stade, comment vous l'avez vécu?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en athlétisme, c'est un public de connaisseurs et de passionnés. Enfin, j'ai l'impression que c'est une grande famille, aussi bien dans les meetings nationaux que dans les grandes compétitions internationales. Et c'est vrai que vous citiez Usain Bolt. Moi, je me souviens d'avoir assisté à un grand meeting au Stade de France où il était là. Et c'est un grand sportif, mais c'est également un showman. Donc, quand il était là, il est vrai que tout le monde venait pour lui. Alors, il y avait toute un tas de spectateurs jamaïcains dans les tribunes avec la musique et lui-même, avant de courir, dansait et puis entraînait absolument tous les spectateurs. Enfin, donc, c'était un truc absolument incroyable. Quoi. Il y a une décontraction qui se dégageait
total,
de lui qui était impressionnante.
Ce qui est étonnant parce que on s'imagine qu'on est dans un état un petit peu de préparation intense.
Absolument.
Et vous, vous étiez comment, alors justement, avant, dans quel état, avant une compétition? Vous étiez aussi, aussi relâché que Usain Bolt? Vous étiez un petit peu plus stressé?
On essaye, mais cela étant, après, c'est le problème des rituels.
Ouais.
Donc, c'est vrai que c'est un moyen aussi de se concentrer sur son objectif, de penser à des gestes, de penser, etc. C'est ça qui nous permet d'évacuer le stress. Alors lui, bon, parce qu'il était supérieur aux autres, donc avait cette nonchalance et cette décontraction absolument incroyable.
Ouais.
Donc c'est ça, mais enfin c'était peut-être un peu caché aussi.
Oui,
enfin,
oui.
C'est vrai que c'était tout à fait plaisant. Mais c'est vrai qu'il y a une dose de stress qu'il faut évacuer. Donc
mais vous l'évacuiez comment alors ce stress justement? C'était
alors donc ça peut être la musique, hein, pour avoir un cas. Donc ça peut être ça.
Et c'est-à-dire la musique, c'est que vous pensez de musique?
Bon, on pensait, puis on peut avoir un casque sur la tête et puis s'entraîner.
D'accord.
Moi, c'était plus peut-être de lire, c'était, etc., de discuter avec les autres, d'essayer d'aborder d'autres sujets, etc.
De ne pas penser à la compétition.
Exactement,
parce
que ça vient très vite.
C'est vraiment, une fois que vous êtes juste dans les starting blocks, que là, c'est concentration extrême.
Oui, concentration extrême, absolument.
Donc, et ça, c'est quelque chose, cette concentration extrême, c'est quelque chose qui se prépare des mois, des années à l'avance. Comment ça se passe pour... C'est vos entraîneurs, c'est vous, c'est...
Oui, c'est somme tout ça. Alors, on peut parler des... On peut parler de ça. Il est clair que quand vous êtes donc dans une grande compétition, c'est toute une préparation alors qui dure pratiquement 4 ans. Hein. Donc,
vous avez 4
ans
très
pour
long.
Vous préparer.
Ouais.
Et c'est 4 ans pour vous préparer pour 10 secondes ou 20 secondes.
C'est dingue. C'est dingue.
Et vous jouez votre vie, effectivement, sur laps de temps.
Alors,
c'est vrai, quand vous faites du marathon, c'est un peu plus facile.
Oui.
On en profite plus.
Mais là, c'est vrai que ça paraît quand même. C'est effectivement.
Là,
bon, donc 4 ans pour 10 secondes, c'est pas frustrant, non?
Ça peut l'être.
Ça peut l'être, oui. Mais bon, en tout cas, ça vous a réussi. Alors, ce qui est, donc, on est là dans les années 68, 70, etc. Et vous partez à Athènes pour vous êtes qualifié pour les championnats d'Europe senior. Et on est en 69.
Oui, alors
en août 69.
En 67, en fait, oui, j'ai fait ces championnats d'Europe alors que j'étais encore junior.
Oui.
Donc c'était ma première grande compétition et donc j'ai été qualifié pour la finale du 100 mètres.
Oui.
Donc c'était effectivement une grande fête. Alors c'est Athènes, il faisait chaud, il y avait beaucoup de spectateurs et pour moi c'était à la fois un grand souvenir et une déception parce que j'ai été blessé, j'ai pas pu me qualifier pour le 4x100
et
donc je n'ai pas pu être champion d'Europe, mais donc on avait une équipe tout à fait brillante à l'époque au 4x100 et donc j'étais remplacé par l'un de mes copains qui a été également champion d'Europe, donc ça a été à la fois une grande satisfaction en étant junior d'être qualifié pour la finale du 100 mètres senior, mais aussi une certaine frustration donc de cette blessure, mais ça j'en reviens à ce que j'ai vu comme avec tout ça, donc ça devait arriver, voilà.
Ça arrive finalement assez souvent aux athlètes, hein,
mais
c'est vrai que c'est dur, mais et comment on se prépare aussi aux grosses chaleurs, parce que là c'était mois d'août à Athènes, donc c'est pas des grosses chaleurs qu'on connaît beaucoup
non,
en France,
c'est
non
c'est vrai, mais alors on s'entraîne souvent le matin très tôt, le soir, en fin d'après-midi, donc là c'est moins intense.
Ouais.
Et je me souviens qu'à Athènes, ils avaient mis le marathon à midi, et là ils étaient en pleine chaleur, donc
les
dégâts, ça a été terrible.
Le pire. C'est incroyable de mettre à midi, mais c'est bizarre.
C'est ça. Je crois que c'était pour la télévision. Enfin, il y avait des raisons là qui s'imposaient, mais ça a été une grande souffrance pour beaucoup.
Effectivement, oui. Et alors ensuite, vous êtes parti à Munich en 1972 pour des jeux aussi.
Oui.
Alors, racontez-nous un peu, parce que ça a été quand même une période un petit peu chaude à Munich en 72. Il y a eu une prise d'otage. Je vous laisse en parler.
Ouais. Bah, les Jeux olympiques de Munich, c'est beaucoup d'images. C'est déjà une immense fête, hein, puisque c'est la réunion pendant une quinzaine de jours des meilleurs sportifs du monde.
Ouais.
Alors, ce que j'en garde comme souvenir, il y a déjà le village olympique. Alors, le village olympique, oui. C'est un concentré de la nature humaine, c'est une véritable tour de Babel. Donc, il y a toutes les races, toutes les langues, tout ça est mélangé. Donc, tout le monde se croise, discute, partage les mêmes repas. Et puis, vous avez, dans ce village, ben, il y a les basketteurs, il y a les gymnastes, il y a les haltérophiles. Alors, je me souviens, il y avait notamment Alexeïev qui avait été champion du monde et champion olympique. Alors, lui, il pesait 160 kilos.
Oula.
Et donc, à la cafétéria, on retrouvait, il était avec ses homologues. Donc, il y avait que des lanceurs. Et qu'est des haltérophiles, et ils attaquaient le petit déjeuner le matin avec des gros steaks, là. Donc c'était tout ça dans un grand silence, donc c'était tout à fait impressionnant.
Et là, c'est drôle de voir effectivement comme des gens se préparent d'un pays à l'autre de manière complètement différente.
Oui, tout à fait. Alors après, comme autre image, il y a le défilé d'ouverture, donc avec toutes les délégations.
Ouais.
Donc il y a un mélange de couleurs, de musique, de drapeaux, c'est un spectacle absolument unique.
Ouais.
Alors après, il y a le jour de la compétition, il y a le jour J. Alors moi, je me souviens que ma série a été à 10h et le réveil a sonné à 5h du matin pour être prêt physiquement et mentalement. Alors la plupart du temps, on dort très peu la veille.
Ah oui,
même, c'est ça. Alors après, il y a le petit déjeuner, là, qu'on prend sur le coup de 6h du matin dans une grande cafétéria. Alors, il y a tous les sportifs qui sont en compétition ce matin-là. Alors, il y a le silence qui domine. Chacun est déjà dans sa bulle.
Ah ouais. Ah oui, c'est...
Après, l'autre étape, il y a l'échauffement. Alors, c'est environ une heure avec un rituel bien établi. Mmh. On regarde peu les autres, la concentration est totale.
Ah oui, chacun est dans sa bulle, vraiment.
Absolument. Ouais. Puis après, on s'approche du départ. Alors, il y a la salle d'attente. Alors là, c'est avant de pénétrer dans le stade, on est pendant 5-10 minutes. Dans une salle, on est en face à face avec vos adversaires. Et là, il y a 8 sprinteurs concentrés.
Vous les regardez comment,
alors? Le silence est pesant, là. C'est véritable...
Vous avez envie de les manger?
C'est véritablement la cage aux fauves.
C'est la cage aux fauves, ouais. Ça va être bizarre, hein.
Alors,
qui
après,
va manger qui?
Exactement. Alors, après, il y a l'entrée dans le stade. Alors, après le silence, il y a une foule immense. Il y a près de 80 000 personnes. Il y a une espèce de bruit assourdissant. Puis après, il y a la course elle-même, donc, qui dure selon les disciplines, 10 secondes, 20 secondes. Alors, c'est d'une intensité incroyable.
Ouais.
Puis après, il y a le résultat, avec son lot de joie, de regrets, de frustration, etc.
Ouais,
alors, donc, moi, j'ai eu la chance d'être qualifié. Alors, vous passez le matin, vous êtes qualifié dans les séries. Après, vous passez donc au quart de finale.
Mm-hmm.
Et donc, là, c'est là où vous voyez si vous avez bien travaillé pendant 4 ans.
Et
c'est ça. Donc,
et
c'est,
la récompense.
C'est exactement.
Ouais.
Mais vous l'avez soulevé aussi, les Jeux Olympiques, ça peut être aussi un drame.
Mm.
Alors, dans le village olympique, il y a des terroristes... palestiniens qui ont pris en otage des membres de l'équipe israélienne.
Mm-hmm.
Alors c'était alors il s'avère que le pavillon français où nous étions logés était situé juste en face de la délégation israélienne. Alors l'information circulait assez mal, il n'y avait pas les réseaux sociaux et on était plus dans la rumeur, il y avait beaucoup de flottement. Et puis, il y a eu la triste réalité, 11 Israéliens ont été assassinés. Alors, après, la question s'est posée, après la stupeur, c'était est-ce qu'il fallait mettre fin aux Jeux Olympiques ou continuer. La décision a été prise de poursuivre pour pas donner raison aux terroristes. C'était un choix.
Ah oui. Mais alors vous deviez être dans un drôle d'état quand même.
C'était très très difficile. Moi j'avais terminé ma compétition, mais je veux dire qu'après pour tous les autres, je veux dire que la fête était finie.
Quoi. Ah bah oui.
Je veux dire que c'était une autre chose. Et après, les Jeux Olympiques ne seront plus jamais les mêmes par la suite, puisque ça sera déjà du tout sécuritaire à côté de cette ambiance décontractée qu'il y avait avant.
Ah oui, donc ça a vraiment changé, ça. Il y a eu après ce...
Absolument,
après
il y avait un avant et après, et après, ça a été des contrôles, ça a été le sécuritaire à plein.
Oui, d'accord. Oui, c'est vrai que quand on vit ça, ça doit être...
c'est traumatisant.
Ça doit être assez traumatisant.
Absolument,
j'imagine. Bon, on va faire une petite coupure musicale. Vous avez choisi une musique de George Gershwin, Summertime, c'est ça ?
Oui, j'aime bien le jazz et l'opéra. Alors là, les deux sont réunis. Alors il y a eu de nombreuses versions d'interprétations. Alors il y a eu Nora Jones, il y a eu Janis Joplin. Mm-hmm. Moi j'ai retenu celle chantée par Ella Fitzgerald et puis Louis Armstrong. J'ai deux monstres sacrés.
Et oui, et alors on y va, on lance.
Summertime. And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Yes, stand by. Fish are jumping, and the cotton is high.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1. L'émission Les Grands s'amusent avec René Metz. Alors aujourd'hui, c'est Justin qui vient pour vous poser quelques questions. Justin qui est aussi un grand sportif et qui aimerait... je te laisse, Justin, poser tes questions à René.
Voilà. Oui, bonjour René. Alors, d'abord, je voulais savoir, parce que ça fait longtemps que vous avez couru sur les pistes de l'athlétisme, à quoi pouvait ressembler et quelles étaient les différences entre les chaussures et l'équipement que vous portiez à l'époque et ceux d'aujourd'hui? Et puis, je voulais savoir si aujourd'hui, vous pensez qu'on peut progresser encore et plus vite qu'avant.
Oui, c'est une bonne question. Alors, si on peut progresser, oui, on doit entretenir cette perspective. Sinon, pourquoi tant de sacrifices ? Alors les raccords sont régulièrement battus. On est passé du centième au millième de seconde pour départager les concurrents ou améliorer des records. Alors la préparation des athlètes s'améliore sans cesse. Il y a le mental, le physique, la technique, et puis il y a des apports de nouvelles techniques comme la biomécanique. Alors tout ça, c'est bien, mais il faut aussi apparaître, et là, ça répond à ta deuxième question, c'est les innovations qui peuvent fausser le jeu. Alors, tu as sans doute remarqué qu'il y a quelque temps, les nageurs avaient des combinaisons et puis amélioraient des records sans cesse. Donc là, on a mis le haut là, et donc c'est maintenant interdit. Alors, au niveau des chaussures, et là, c'est un très bon exemple. Donc maintenant, on a des semelles hautement technologiques, surtout pour les courses de longue distance. Alors, c'est des semelles incurvées pour une meilleure propulsion vers l'avant. Alors, il y a la moitié de la semelle qui touche au sol au moment de l'impact, donc c'est un meilleur amorti. Alors, on a estimé, et donc là, je vais pas citer le nom de l'équipementier, mais que les chaussures donc ont permis d'améliorer à peu près d'environ 4% le rendement donc d'un coureur. Et c'est surtout sur le marathon. Alors, derrière tout ça, on sait qu'il y a un objectif, c'est de courir de façon officielle le marathon en moins de 2 heures. Alors, il y a une vraie question, c'est est-ce qu'on doit laisser faire ou réglementer? Alors, il faut rappeler que dans un passé pas si lointain, bon, il y a déjà eu des évolutions. Alors, on est passé de la piste en cendrée qui a été remplacée par du tartan. Au saut à la perche, par exemple, alors on a une perche qui a évolué, il y a eu le bois, l'aluminium, et qui ont été remplacés par la fibre de verre et la fibre de carbone. Alors, c'est un vrai sujet. Alors, moi, j'ai tendance à répondre oui, si tous peuvent utiliser les mêmes avancées technologiques. Sinon, il y a une rupture, une inégalité entre les athlètes. Mmh. Mais il faut être vigilant, hein, bon... Sinon, on peut dire, par exemple, pourquoi ne pas accepter les oreillettes pour les coureurs de fond avec une assistance extérieure du coach pour les guider dans leur stratégie de course. Après, il n'y a plus de limite. Donc, voilà.
Tu avais une autre question?
Non, c'est bon.
Ok, super, ben merci Justin. Alors je crois qu'il y a un autre supporter aussi qui veut vous poser une ou deux questions. René, vous êtes sollicité.
Très bien.
On y va, bonjour Gaston.
Bonjour René, bonjour Anne.
Bonjour, tu peux poser tes questions directement à René et
Gaston. Oui, donc ma première question c'est est-ce que vous trouvez que le racisme a évolué dans le sport les 50 dernières années?
Est-ce que le racisme a évolué dans le sport les 50 dernières années, René?
Alors, est-ce que le racisme a évolué? Alors, donc il faut surtout peut-être parler d'un élément qui a été un espèce de détonateur. C'était les Jeux de Mexico avec sur le podium John Carlos et Tommy Smith qui ont été médaillés sur 200 mètres et qui ont fait parler d'eux dans la mesure où pendant l'hymne national, ils ont levé le poing ganté de noir.
Oui.
Et c'était pour aller en faveur du mouvement des Black Panthers. Et puis de protester contre la condition qui était faite aux athlètes noirs américains. Alors c'était à l'époque un scandale, donc les athlètes ont gardé leurs médailles, mais ont été exclus. Mm-hmm. Et à partir de là, ça a quand même éveillé donc la conscience de beaucoup. Alors on se souvient que bien avant, il y a eu le cas de Jesse Owens, hein, qui a été médaillé à plusieurs reprises aux Jeux de Berlin, et puis ensuite qui n'a pas été très considéré, loin de là, donc par les États-Unis. Alors, est-ce que c'est évolué? Oui, parce que on le doit notamment en rappelant ce qu'a fait Usain Bolt et bien d'autres. Hein, je veux dire qu'ils sont là, ils ont essayé de pousser l'idée d'universalisme, de non-discrimination. Et à partir de là, oui, il y a une évolution, mais il faut être toujours prudent et toujours prôner ces valeurs vis-à-vis de nous. C'est sans arrêt, quoi.
Ouais. Gaston, est-ce que René a répondu à ta question?
Oui, merci.
Oui, tu as une autre question?
Oui. Oui, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'enfant de devenir un grand sportif?
Alors, sur le moment, signer des autographes, avoir sa photo dans les journaux, être reconnu, bon, c'est gratifiant, hein, c'est un signe de reconnaissance et c'est très important pour un sportif, comme pour tout le monde d'ailleurs. La reconnaissance est essentielle. Mais il faut aussi voir que la gloire est éphémère, sauf pour de très grands champions. Alors, ce qu'on peut laisser, c'est de dire que si on peut laisser une marque par la suite, à la suite de votre carrière, pour essayer de faire passer des messages, pour faire progresser certaines causes et se donner en exemple, c'est peut-être l'essentiel. C'est ce que je retiendrai.
Toujours des belles valeurs de sport. Mais écoute, merci.
D'accord, merci.
Merci à toi, Gaston. Bonne journée.
Merci à vous, Gaston.
Au revoir. Voilà. Bon, vous avez eu plein de petits jeunes. Donc oui, moi, je voulais aussi parler du mental. Voilà. Est-ce que on en a un petit peu parlé avec Justin? Mais c'est vrai que, ouais, est-ce qu'on est fabriqué comme ça? Est-ce qu'on est, on est avec un mental d'acier ou c'est quelque chose qui se travaille, est-ce qu'on peut performer indéfiniment? Est-ce que...
Alors, il y a une grille de performance, donc, qui est composée de trois piliers. Hein, vous avez le physique, ben, c'est déjà la force, la puissance, la vitesse, l'endurance. Il y a aussi la technique, hein, qui est spécifique à chaque discipline, et il y a le mental. Alors, depuis plusieurs années, on a pu constater que le mental était un aspect fondamental dans la préparation du sportif, avec un objectif, c'est de se retrouver dans un état maximal de concentration et de réussite. Alors, c'est à la fois apprendre à se relâcher, c'est évacuer le stress, c'est penser positif, et puis surtout d'avoir à l'esprit que considérer l'échec et la déception comme des étapes de vie qui permettent d'apprendre pour mieux rebondir, être mieux armé par la suite. Alors, vous connaissez sans doute la citation de Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ».
C'est ça, oui.
Voilà. Et donc, maintenant, la plupart des sportifs de haut niveau ont intégré un coach mental dans leur staff et utilisent des techniques de préparation mentale. C'est maintenant indispensable.
Ouais, donc, toujours être positif à fond. Quoi.
Absolument.
Alors, il y a une chose dont on parle aussi beaucoup dans le monde du sport et dans ces jeux, c'est le dopage. Voilà, vous avez. Est-ce que vous avez connu, approché ce problème de dopage dans votre carrière? On a des exemples, par exemple, la sprinteuse américaine Marion Jones, qui avait remporté 5 médailles dans 100 mètres, 200 mètres, le saut en longueur, le relais 4 fois 100 mètres, etc. Apparemment, après, en 2007, après une longue enquête sur l'affaire Balco, Jones admet devant les tribunaux avoir pris des produits dopants. C'est incroyable. Donc, en fait, finalement, on lui a retiré sa médaille.
C'est pas un phénomène nouveau. Alors, c'est maintenant plus sophistiqué et tous les sports sont concernés, quel que soit le niveau de la compétition. Alors, dès l'instant où vous avez l'argent, la gloire, la reconnaissance collective ou personnelle qui sont en jeu, c'est inévitable. Alors, dans certains pays, n'oublions pas, c'est quand même un fantastique ascenseur social. Donc, ça peut effectivement attirer les convoitises.
Ouais.
Alors, maintenant, c'est une course sans fin entre la mise au point de substances illicites et puis leur détection par des laboratoires spécialisés. Alors, moi, j'ai surtout connu la période des années 70. Mm-hmm. Et là, c'était les pays de l'Est qui ont été leaders dans ce domaine, avec la volonté c'était de promouvoir un modèle de société. Alors, on sait que le dopage a des effets désastreux sur la santé et puis crée des injustices. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des nageuses de l'RDA à l'époque, qui avaient des dos absolument impressionnants et qui pulvérisaient des records, mais la suite de leur vie était souvent un cauchemar, parce qu'ils ont donné naissance à des enfants atteints de malformations, il y a eu des décès prématurés, donc c'est un immense gâchis.
Oui. Oui, parce qu'il y a des histoires comme ça de femmes en fait, enceintes, qu'on fait...
C'était
assez sordide.
Et d'ailleurs, ce n'était pas l'individuel qui aspirait à se doper, c'était vraiment le système d'État qui était, qui était fait comme ça.
Mais alors, c'est-à-dire que quand on est jeune comme ça, on peut être approché par des entraîneurs qui proposent à des jeunes futurs athlètes de se doper, ou vous avez connu ça, ou
moi je n'ai pas connu ça, mais encore une fois dans les pays de l'Est, c'est ça. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très très longtemps, on a mis donc une tricherie qui était érigée en système d'État. Mmh. Avec des complicités à tous les niveaux de la société, c'était la Russie. Donc, a été suspendu pendant plusieurs années, qui ne sera pas encore présent cette année aux Jeux de Tokyo.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc, c'est ça. Donc là, c'est vraiment un système. Mmh. Alors, bon, évidemment, il y a de nombreuses médailles qui ont été attribuées longtemps après la révélation des cas de dopage. Alors, on peut se dire que c'est une juste réparation, mais pas vivre ce moment, jour de l'épreuve, dans un stade plein, avec les hymnes nationaux, c'est quand même pas tout à fait la même émotion.
Oui, ça change la donne.
Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les Français sont très mobilisés sur ce thème, et militent beaucoup pour un sport propre. Donc là, maintenant, il y a des suivis réguliers de tous les sportifs qui ont été mis en place avec des contrôles tout au long de l'année.
Ouais.
Puis ceux qui ne respectent pas ce protocole sont sanctionnés. Mm-hmm. Mais c'est loin d'être gagné.
Ouais, hein,
c'est toujours une course. Alors, on sait que les Jeux Olympiques, c'est avec le classement des médailles, c'est une fantastique vitrine pour mettre en avant un pays, un modèle de société.
Et
donc,
oui,
il y a toutes les tentations.
D'accord. Nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1. Oh, l'émission Les Grands s'amusent avec René Metz. René Metz, comment on saute du sport de haut niveau à la vie de cadre en entreprise, ce qui est votre cas?
Écoutez, après mes études, donc j'ai commencé ma carrière professionnelle. Alors, je suis rentré dans le groupe immobilier d'un grand groupe bancaire, c'était BNP Paribas Real Estate, qui est dirigé par Thierry Laroupon, qui est un grand dirigeant. Alors, j'ai retrouvé certaines valeurs. Ce groupe BNP, c'est un groupe dynamique, qui est très exigeant, qui a une culture du résultat. Il y a beaucoup de challenges à relever, du stress à gérer.
Mmh.
Puis j'ai remarqué aussi, c'est que le sport santé était mis en avant. Alors, et on sait que l'activité physique a des effets sur le bien-être psychologique et l'équilibre de l'individu des salariés. Donc ça, c'est un élément qui a été porté. Alors, bon, moi, je suis content parce que finalement, c'était une carrière qui était en évolution constante. Quand j'ai commencé, on était 200 salariés, c'était très franco-français.
Mm-hmm.
Et puis quand j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, c'était le premier groupe immobilier en Europe avec 5000 collaborateurs.
Ah oui, effectivement.
Donc c'est ça, alors j'ai occupé différentes fonctions managériales. Il faut être très polyvalent dans un groupe comme ça. Donc, j'étais notamment président du pôle résidentiel, donc c'est plusieurs métiers, c'est 450 collaborateurs.
Mmh.
Alors, c'est un métier qui est fait de rencontres avec les maires, les architectes, les hommes politiques, les aménageurs. C'est tout à fait passionnant. Mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est le travail en équipe.
Oui.
Donc, c'est la complémentarité des talents pour atteindre des objectifs en commun. Et je veux dire que mon expérience dans le sport m'a mis dans les meilleures dispositions pour aborder cette vie professionnelle.
Eh oui, on imagine que ça aide beaucoup. C'est Stéphane Diagana qui développe aussi le sport en entreprise, qui était champion du monde du 400 mètres.
Absolument. Ouais. Donc, on est souvent en relation donc avec lui. Alors, il a le projet je pense qu'il devrait y arriver bientôt, c'est d'avoir un immense campus justement pour traiter du sport santé. Donc c'est à la fois des gens, on va dire, qui viendront faire un stage avant des grandes compétitions, mais c'est aussi surtout des gens qui ont des maladies et qui ont besoin d'une rééducation.
Ah,
donc
oui,
il sera près de Mougins, donc dans un ensemble absolument magnifique, et il espère être prêt à temps avant les Jeux Olympiques
avant
de Paris 2024.
Et
absolument.
Oui, c'est une belle ambition.
Ça, mais ça fait des années qu'il est dessus. J'espère de tout cœur qu'il va réussir.
Et oui, exactement. Donc, la reconversion professionnelle, voilà, c'est quelque chose qui est plus évidente aujourd'hui qu'à votre époque ou c'est...
Non, je crois que le sport est de plus en plus exigeant. Donc, maintenant, on est toujours à la limite des capacités physiques et mentales.
Mm-hmm.
Donc, je crois qu'il faut être hyper organisé. Il faut vraiment, c'est que derrière tout ça, donc les fédérations soient très proches des athlètes pour les aider.
Ouais, c'est ce que vous faites. Alors, on va en parler.
Voilà.
La reconversion à la retraite, une autre reconversion.
Voilà, parce qu'ils représentent le sport, la France, et ils ont besoin d'un retour. Et il faut tout faire pour les aider.
Alors, racontez-nous justement ce que vous faites vous pour les aider aujourd'hui. Maintenant, vous avez pris donc votre retraite il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
Voilà.
Absolument.
Vous êtes très actif, toujours. donc vous êtes vous occupez de pas mal de fédérations sportives.
Déjà, je voudrais dire que dans la transmission, parce que c'est le thème de l'émission, il y a déjà ce que j'ai pu transmettre sur le plan familial. Alors, j'ai 2 enfants qui les deux réussissent très bien dans leur vie. Ils font du sport. Alors, ma fille Jennifer, elle, c'est l'équitation et le marathon. Et puis mon fils Nicolas, c'est un bon basketteur. Alors, ensuite, il a fallu que je m'entretienne. Alors, je me suis mis sérieusement au golf, que je pratique dans le club de Saint-Germain, qui est présidé par Jean-Paul Davin. Alors, c'est un sport qui requiert beaucoup de qualité, l'humilité, la ténacité. Mmh. Il faut un mental d'acier, donc j'adore.
Ouais.
Et puis, je suis également impliqué dans deux associations. Alors, il y a le groupement des internationaux français d'athlétisme, le GIFA, qui est présidé par Michel Samper. Donc, le but, c'est de maintenir un lien intergénérationnel entre les athlètes internationaux. Alors, ça se passe à travers des activités sportives et culturelles.
Mmh.
Et puis, surtout, c'est d'essayer d'aider les jeunes sous des formes diverses. Et puis, plus récemment, donc, je suis rentré dans l'association des Olympiens français, là, dont je suis vice-président.
Oui.
Alors, il faut savoir qu'il existe 150 associations d'Olympiens dans le monde. Il y en a un par pays membre.
Mmh.
Donc, l'ensemble est regroupé au sein d'une association mondiale des Olympiens qui est dirigée par un Français, Joël Bouzou, qui fait un travail absolument remarquable. Alors, en France, cette association a été créée par Guy Dru, champion olympique du 110 mètres haies à Montréal en 1976, qui était ancien ministre et qui est actuellement membre du Comité international olympique. La présidente est Valérie Barlois, qui était elle-même championne olympique en escrime aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Mm-hmm. C'est une femme brillante et très engagée. Alors, la vocation principale de cette association, c'est de regrouper, fédérer tous les sportifs français qui ont participé aux différents Jeux olympiques, été comme hiver.
Ouais.
C'est de renforcer également la place des Olympiens à l'occasion de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et puis, c'est aider ces sportifs de haut niveau à différentes étapes de leur vie. Alors, c'est avec des bourses d'études, c'est des stages en entreprise, c'est de faciliter leur reconversion professionnelle.
Avec tout un réseau comme ça.
Absolument, le réseau entreprise qu'on est en train de constituer. Et puis, il faut aussi associer les Olympiens à des actions d'intérêt général et sociétal, telles que y a la prévention des violences et des discriminations dans le sport. C'est un sujet très sensible actuellement.
Ouais.
Et puis, il faut aussi encourager, par l'exemple, la pratique du sport dès le plus jeune âge. Alors, on a un comité exécutif et un conseil d'administration dans cette association qui est composé d'Olympiens dévoués, dont certains seront à Tokyo cet été. Il y a Astrid Guyard en escrime, il y a Benjamin Lang en aviron, il y a Sophie Camoun en natation, Eva Serrano en gymnastique rythmique, il y a Daniel Sangouma en athlétisme, et puis Marlène Arnois, Taekwondo, et bien d'autres encore.
Donc toujours les valeurs du sport, la solidarité.
Je pense que chaque Olympien, de par son statut, doit jouer un rôle dans la société, transmettre son expérience, sa passion et ses valeurs aux autres. Alors moi, j'apporte ma contribution à cette cause, en apportant mes idées, mes relations, mon temps, mon expérience, tant professionnelle que sportive.
Ouais. Bravo, bravo. Si vous aviez un message à passer aux jeunes.
Je leur dirais qu'ils essaient, déjà qu'ils fassent du sport, parce que je crois que c'est un événement très formateur pour la suite.
Oui.
Je dirais aussi, c'est qu'ils essaient de trouver une passion, quelle qu'elle soit. Alors là, on parle de sport, mais ça peut être dans la musique, dans les arts, etc.
Pour trouver un sens.
Et puis, qui donne le meilleur d'eux-mêmes. Quoi.
Ouais.
Donc, ce soit absolument très important. Quoi.
Et vivre sa vie à fond.
Exactement.
Et y aller. Et bien, on arrive à la fin, quasiment à la fin de l'émission. Hein. Alors là, j'ai lu ce matin une citation de Bernard Pivot, c'est un peu pour le joke. Le journal de l'équipe devrait ouvrir une page quotidienne pour suivre la compétition qui oppose les variants anglais, brésiliens, indiens, sud-africains, bretons, etc. pour le titre de champion du monde de la pandémie. Voilà, on va finir là-dessus. Et puis, merci beaucoup René Metz, on a passé une super émission punchy, sportive. Merci Justin, merci la technique, Julien Boudou, Tanguy Rivière, Elias Lacazin, Geoffroy Douvreleur, voilà, ils sont très nombreux aujourd'hui. Et puis dans une semaine, voilà, j'ai une prochaine émission le 29. Très bonne soirée à vous tous.
Merci
beaucoup, au revoir. And the sunlight hurts my eyes. Something without one enough. Bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just